On dit souvent que les États-Unis et l'Angleterre ont 10 ans d'avance sur nous en matière de wokisme. Cela signifie donc aussi qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous quant à l'organisation de la riposte. C'est ce qu'a voulu démontrer la journaliste et essayiste Sylvie Pérez dans son livre « En finir avec le wokisme ». Après 4 ans de recherche, elle raconte, en illustrant par de nombreuses anecdotes, comment nous aussi en France, nous pouvons contrecarrer les plans de la mouvance woke. Bonjour Sylvie Pérez.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais c'est moi qui vous remercie de vous intéresser au livre.
Donc vous avez écrit « En finir avec le wokisme ». Qui est sorti récemment. Comment vous est venue l'idée d'écrire un livre, un gros livre, sur le wokisme?
Sans pas effrayer les lecteurs non plus. Mais en finir avec le wokisme, et le sous-titre, c'est « Chronique de la contre-offensive anglo-saxonne ». Donc voilà comment m'est venue l'idée. C'est que j'habite en Angleterre, et que l'Angleterre, c'est un point médian entre les États-Unis et la France sur ce sujet-là. Le wokisme, il est devenu vraiment très, très prégnant aux États-Unis à partir des années 2010. On en a vu les effets, les outrances les plus folles. Et il est assez fort, c'est un mouvement qui est fort aux États-Unis, qui est assez destructeur. Et il est arrivé en Angleterre. Et il arrive maintenant, depuis déjà quelques années en France. Enfin, vous en avez, Valeurs Actuelles n'est pas le dernier à chroniquer les effets, les ravages du wokisme. Donc quand on est en Angleterre, on a une vision assez proche, en fait, de ce mouvement.
Vous avez commencé à écrire votre livre il y a 4 ans, ce que vous m'avez dit.
Ouais.
Il y a 4 ans, le wokisme en France était un mot inconnu pour la plupart des personnes, et la plupart du vocabulaire wokiste était encore loin devant nous. Vous aviez déjà senti justement ce côté... tout ce qui vient des États-Unis passe par l'Angleterre et arrivera en France. Et il y a 4 ans, vous vous êtes dit, il faut que j'écrive parce que ça va venir.
Exactement, parce qu'ils ont, 10 ans d'avance sur nous aux États-Unis. Donc ils ont aussi 10 ans d'avance sur la riposte. Donc c'est quand même intéressant de se pencher sur les outils de la dissidence, les instigateurs de cette contre-offensive. Et j'avais envie de raconter les batailles gagnées aussi. C'est parce que je dois dire qu'à chaque fois, c'est une source d'optimisme. Quand on voit la création d'outils pour essayer de démêler cette nébuleuse qui est assez complexe du wokisme et qui s'insinue partout. Le wokisme, c'est un mouvement qui fait beaucoup de bruit. On va vous parler de statues qui sont déboulonnées, on va vous parler de gens qui perturbent des conférences. Ça fait du bruit, les gens hurlent. Mais dans le camp d'en face, il y a des gens qui sont beaucoup plus silencieux, mais qui mènent des opérations dont l'enjeu est absolument capital, puisqu'il s'agit de défendre la liberté d'expression, la liberté de conscience, l'égalité devant la loi. Donc ça m'a paru important d'aller voir ce qui se passait de ce côté-là.
Ça fait combien de temps que la riposte s'organise aux États-Unis ?
Je dirais que parmi les pionniers, vous avez sans doute entendu, enfin, et puis vos auditeurs aussi, entendu parler de Jordan Peterson. Mm-hmm. Son histoire commence en 2016. Quand il s'oppose à une loi canadienne, une loi, c'est une sorte de loi relative aux droits civiques, mais une loi importante qui a une force quasi constitutionnelle et qui, entre autres, exige que l'on utilise les nouveaux pronoms, les pronoms non genrés, comme on dit en français, je crois que c'est huil, il, yel.
Yel, oui.
Voilà, des pronoms qui sont, c'est plus il ou elle, mais il y a toute une gamme d'identités. Et Jordan Peterson, qui est un psychothérapeute et professeur de psychologie à l'Université de Toronto, a l'impression que là, on franchit un cap, puisqu'on rédige une loi sur une notion qui est totalement vague et qui n'est absolument pas scientifique, qui est la notion de genre, le spectre de genre. Et donc, il va s'exprimer là-dessus. Il va en parler à des collègues autour de lui, qui vont être très inquiets d'intervenir dans le débat. Donc il va sentir qu'il y a là une espèce de, comme dit Nathalie Heinisch, un totalitarisme d'atmosphère. Donc ses collègues qui sont des savants, qui sont des universitaires, qui ne devraient pas avoir peur de s'exprimer sur un sujet qui était assez évident, n'osent pas sortir du bois. Et là, Jordan Peterson commence à faire des vidéos, etc. Enfin, vous connaissez la suite de l'histoire. L'émission... Il passera dans une émission d'Angleterre en 2018, pour vous donner un peu des repères de date, face à Cathy Newman. C'est une émission qui va être vue des dizaines de millions de fois sur YouTube, parce que là, il tient bon face à une journaliste. Enfin, il y a une espèce de réaction à la chape de plomb woke. Voilà. Jordan Peterson, c'est un des pionniers. Je peux citer aussi Dave Rubin, qui est un journaliste de gauche, juif, homosexuel, marié, qui travaille sur une chaîne très de gauche et qui, tout à coup, va trouver que ça va plus, que la gauche démocrate devient totalitaire. Enfin, pas totalitaire, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, qu'il n'y ait plus de liberté d'expression. Et il va... Un des repères de date, c'est cette petite vidéo qui s'appelle « Why I left the left ?»« Pourquoi j'ai quitté la gauche ?» En gros, il documente les délires woke. Et ça aussi, cette vidéo, elle a été vue plusieurs, je crois, 15 millions de fois. Et ça va être des étapes, ça. Je dois dire que, par exemple, c'est... Comment vous expliquer ? Je crois que c'est un peu plus facile aujourd'hui de faire son coming out, je dirais, anti-woke, que ça ne l'était en 2016 ou en 2017. Et puis ça a continué 2020, etc.
Et justement, de ce que vous avez vu pendant ces années où vous avez travaillé sur votre livre, comment s'organise cette riposte ?
Alors, cette riposte, il y a plusieurs choses. Il y a des outils, déjà, pour contrer le wokisme. Je vous donne un exemple. En Angleterre, il y a un syndicat de la liberté d'expression qui s'appelle Free Speech Union. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Qui a été... Non, bon, c'est bien, c'est une bonne lecture. Créé par quelqu'un qui s'appelle Toby Young et qui vole au secours de quiconque est victime de cancel culture. Or, là, il faut quand même prendre la mesure de la violence du débat, si vous voulez. Pour comprendre l'importance de la contre-offensive, il faut prendre la mesure de la violence du débat. Et je peux vous donner quelques exemples. Si vos auditeurs connaissent l'histoire de Kathleen Stock, qui était une professeure de philosophie féministe dans une université de renom en Angleterre, et qui, parce qu'elle a maintenu que... Le sexe est une notion biologique indépassable, a eu des ennuis, des campagnes d'insultes et d'intimidation de la part d'activistes transgenres et a fini par devoir donner ses cours en ligne parce qu'elle avait des menaces de mort et de vivre retranchée chez elle sous protection policière et finalement de démissionner au bout de 18 ans de carrière. Mais des exemples comme celui-là, il y en a... Il y en a infiniment. Céline Atod, qui était professeure, enfin qui est toujours d'ailleurs professeure d'histoire moderne à Oxford, qui c'est pas rien. Oxford, c'est quand même un des fleurons de l'université britannique, qui était obligée, parce qu'elle est féministe, qui était obligée de donner ses cours avec deux gardes du corps. Enfin voilà, c'est quand même très violent. Et ça, et donc ce syndicat de la liberté d'expression s'occupe de gens comme ça qui sont victimes de cancel culture, c'est-à-dire qui sont menacés de licenciement.
En fait, c'est les social justice warriors de l'autre côté de l'autisme.
Oui, c'est alors la façon dont ils procèdent. Je donne un exemple. Pendant le confinement en Angleterre, un conducteur de train, parce que vous savez, les pubs étaient fermés, donc et à un moment, il est question de rouvrir les pubs, c'est la fin du confinement, et un conducteur de train, un inconnu, d'une cinquantaine d'années, met sur Facebook « Ah, bah tant mieux, on va tout de même pas devenir un califat musulman et ne plus boire d'alcool. Tant mieux si les pubs rouvrent. » Il est traité d'islamophobe et la compagnie ferroviaire, pour ne pas salir sa réputation, le licencie. Donc ça c'est un des exemples de personnes au secours desquelles va voler ce syndicat de la liberté d'expression. Je vous donne un autre exemple. Un homme qui avait une association de charité pour les jeunes sans-abri à Manchester et qui, au moment de la vague en 2020, parce que ça a été un moment assez fort aussi de cancel culture, après la mort de George Floyd, il a dit que Black Lives Matter était un mouvement marxiste. Et son conseil d'administration l'a licencié. Alors que ce qu'il disait était juste d'ailleurs, et que c'était plutôt quelqu'un qui œuvrait au bien-être de la société. Ouais. Et puis, donc, le syndicat de la liberté d'expression s'est occupé de. D'abord, ils envoient des lettres.
Ouais, c'est ça,
ensuite, oui, la technique en général, ils font parfois des campagnes de presse, Puisque, si vous voulez, le principe, c'est que la société qui va licencier son employé pour ne rien risquer, si jamais il y a une campagne de presse, voilà, si jamais il y a une campagne de presse, le résultat n'est pas bon. Donc ça, c'est une des méthodes, c'est de faire une campagne de presse. Et ce Toby Young, il a travaillé dans la presse, donc il connaît du monde. Ensuite, ils écrivent des courriers. Et puis, il y a évidemment une équipe d'avocats. Et s'il faut aller au procès, on va au procès.
Et ça, est-ce que c'est pas très américain?
Alors ça, c'est anglais en l'occurrence. Anglais, et oui. C'est un système de membership. Les gens, ouais. Enfin, vous payez par an.
C'est vrai qu'aux États-Unis, ça fonctionne beaucoup comme ça. C'est quelqu'un a une cause et va finalement réussir à réunir plein de signataires d'une pétition. Et la pétition va faire grand bruit. Et c'est ce qui s'est passé avec Monsanto pour le glyphosate, par exemple. Ouais. Et ils ont obtenu justice parce qu'ils sont arrivés avec leurs avocats. Et hop, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Mais c'est un peu moins comme ça en France. C'est plus compliqué. On fait pas des grandes campagnes de pétition. Ça tombe souvent un peu à l'eau. Comment est-ce qu'en France, ce free speech union pourrait se développer?
Je crois que ça pourrait très bien fonctionner parce que si vous voulez, le problème du wokisme et de la cancel culture, c'est qu'il faut, se défendre en groupe. C'est très difficile de se défendre tout seul. D'abord, c'est très pénible d'être accusé de racisme, d'islamophobie, de transphobie. Enfin, personne n'a envie d'avoir l'air de quelqu'un de haineux. Donc c'est très difficile. Les gens se désolidarisent facilement. C'est dangereux. On risque sa situation, etc. Donc c'est pour ça que des actions de groupe. Mais c'est pas comme des class actions. C'est plutôt c'est des cas individuels. Mais c'est juste qu'il y a derrière des gens qui vous entourent, quoi. Parce qu'on est très très seul. Tous les gens qui ont vécu ça, et ce Toby Young a vécu ça, disent que dans ces cas-là, on est très très seul. Mais il y a d'autres sortes d'outils. Par exemple, en 2014, l'Université de Chicago a rédigé ce qu'on appelle les principes de Chicago, qui sont des principes de liberté d'expression et de liberté académique à l'université. Et ça date de 2014. Et aujourd'hui, il y a une centaine d'universités américaines qui y ont souscrit. Vous voyez, ça, c'est des outils qui permettent de faire avancer ce camp-là, ouais, sur des choses concrètes, sur des engagements.
Très bien. Vous mettez en valeur, vous en avez cité beaucoup, des personnalités qui se dressent contre le wokisme, personnalités américaines ou anglaises. Quelles sont ou quelles pourraient être les personnalités françaises qui pourraient faire de même en France?
Mais en France, vous savez, on peut citer l'Observatoire de la Petite Sirène sur la question transgenre. Qui fait beaucoup, qui a édité des guides, parce que c'est important sur cette question du transgenreisme, qui est très complexe. L'Observatoire de la Petite Sirène, c'est un ensemble de professionnels de l'enfance, des psychologues, des psychiatres, des médecins, et ils ont une approche beaucoup plus prudente de la question, et ils veulent éviter que... Or, quand les gens se renseignent sur Internet... Ils sont très vite face à des activistes, en fait, et leur enfant se trouve précipité vers des traitements hormonaux, etc. Et en France, il y a aussi l'Observatoire du décolonialisme, d'universitaires. Leur méthode, c'est l'Observatoire du décolonialisme, c'est une réunion d'universitaires, et leur méthode, qui est une méthode qu'on trouve aussi aux États-Unis, en Angleterre, c'est déjà, il faut informer. Parce que vous savez, la grande idée, c'est que le wokisme n'existe pas, déjà. Donc, s'il y a le moindre problème avec le wokisme, c'en est pas un, puisqu'il n'existe pas, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut... c'est très important, ce travail d'information. Et l'Observatoire du décolonialisme y œuvre en publiant des articles.
Il y a une question qu'on nous pose souvent, parce qu'on fait beaucoup de sujets sur le wokisme, c'est... les gens, entre guillemets, nous reprochent de trop en faire. Et ils nous disent, plus vous en parlez, plus vous utilisez leurs termes, plus vous participez vous-même à imprégner tous ces termes dans le langage chez les jeunes, etc. Est-ce que si on arrêtait d'en parler, ça ne s'essoufflerait pas tout seul, parce que c'est des personnes qui ont besoin de reconnaissance, et si on les ignore tous, ça va passer. Est-ce que vous y croyez à ça ou pas? Ou c'est trop fort maintenant?
Mais je ne pense pas qu'il faille cesser d'en parler. Mais je pense qu'il faut en parler d'une autre façon maintenant, parce que on a passé un cap. Le wokisme, c'est plus juste quelque chose d'anecdotique qui concerne une frange de gens un peu excentriques, des jeunes aux cheveux bleus, etc. C'est pas ça le wokisme aujourd'hui. Le wokisme, il a intégré l'administration.
Vous parlez, comme exemple, vous parlez du celles et ceux.
Ah oui, c'est
vraiment
le langage.
C'est pour moi la preuve parfaite. On voit même le président de la République qui dit celles et ceux en permanence, toutes et tous.
Oui, oui.
Et là, exactement. On se dit, waouh, c'est vraiment rentré à une échelle institutionnelle, hyper insidieusement, en fait.
Exactement. Mais même, je vais vous donner un autre exemple, qui est la loi de janvier 2022, interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette loi, mais c'est un tournant important parce que, grosso modo, c'est une loi qui interdit la psychothérapie pour les jeunes qui se disent transgenres. C'est-à-dire, vous avez un jeune qui ne se sent pas bien dans sa peau, il se trouve qu'il y a un effet de contagion avec Internet et avec les vidéos, etc., et que souvent, vous avez des jeunes qui, au moment de la puberté, ne se sentent pas bien et se disent « Ah ben, je suis transgenre » et qui ont besoin d'un accompagnement psychologique. Les activistes transgenres ont milité pour qu'on interdise cet accompagnement psychologique qui qualifie de conversion de thérapie, ce qui fait référence à ce qu'on faisait aux homosexuels dans les années sombres quand on les obligeait à devenir hétérosexuels. En réalité, ça n'a rien à voir. Une fois de plus, on joue sur les mots. Et donc, cette loi a été votée en 2022 et elle autorise n'importe quelle ONG à porter plainte contre un médecin qui essaierait de raisonner une jeune fille en lui disant « Ton corps, c'est ton corps, il faut que tu vives avec, tu es une fille. » Et voilà, ça devient illégal. Alors, la loi est assez complexe, mais on risque des amendes, on risque une interdiction d'exercer sa profession. Enfin, c'est très sérieux.
Oui.
C'est plus anecdotique, quoi.
Oui, c'est
pas...
ça.
Et il y a eu quelque chose d'autre qui est arrivé, qui n'est pas dans mon livre, qui est arrivé là il y a quelques semaines. C'est Eric Kaufmann, qui est un politologue et professeur de sciences politiques, qui lance un master sur le wokisme. Et alors, c'est intéressant parce que, voilà, là encore, c'est la preuve que c'est un sujet qui est pris au sérieux. Et je dirais... qui est domestiqué, si vous voulez. C'est plus cette espèce de chose hirsute qui part dans tous les sens, qui provoque la sidération, mais que la sidération, vous voyez. Là, on a envie de démêler la chose, de voir comment c'est arrivé jusque-là, comment on va faire en sorte de remettre les choses en place et de revenir à des valeurs fondatrices.
On en a un petit peu parlé, mais vous parlez beaucoup de... La première chose à faire et qui globalement a été faite, si je vous comprends bien, c'est de dire les choses, de dire ce qui est.
Oui.
Et en l'occurrence, il y a beaucoup de choses qui sont déjà avec le wokisme, et notamment le langage woke, on en parlait tout à l'heure. Un langage qui s'est donc infiltré partout, qu'on retrouve dans des sujets d'examen, qu'on retrouve parfois dans des communiqués de presse. Enfin, c'est vraiment...
Je vous interromps juste sur dire ce qui est, parce que je trouve qu'une bonne définition du wokisme, c'est il faut voir ce que l'on dit et non dire ce que l'on voit. C'est ça. C'est un rapport avec la réalité qui est travesti.
Et c'est pour ça que notre slogan chez VA+, c'est connecté au réel.
Bah oui, voilà, exactement. En fait, mais c'est ça. Et ce que vous dites, parce que vous avez raison de vous pencher sur cette question du langage qui est fondamental et qui est d'ailleurs... On revient à 1984, vraiment. On prend 1984 d'Orwell, non pas comme un avertissement, mais comme un guide.
Oui.
C'est parce que, c'est vous savez, la guerre, c'est la paix, l'esclavage, c'est la liberté. Enfin, tous les mots sont complètement renversés.
Mais donc, quand on a ce langage qu'on voit partout, par exemple, un étudiant qui est baigné dedans avec toutes les associations de son université, potentiellement, on disait, dans ses propres partiels, il y a des mots qui sont mis dans les formations des professeurs aussi. Il y a tout un langage qui est utilisé. Donc, les professeurs eux-mêmes sont formés à parler comme ça à leurs élèves. Donc, c'est un cercle qui ne s'arrête jamais. En fait, on a l'impression qu'on n'en finira jamais. Et donc, comment lutter contre ce langage woke ? Au-delà du wokisme qui, de fait, il y a le wokisme des mots. Et comment on fait, par exemple, quand on est face à une situation où on voit, on reconnaît un langage woke, on est obligé de l'utiliser ? Enfin, est-ce qu'il faut inventer un contre-langage, typiquement le mot wokisme, vous le disiez.
Mais c'est pas un contre-langage, le mot wokisme.
Non, mais il le refuse. Donc en fait, c'est pour ça qu'on l'utilise.
Ce sont les woke.
C'est vrai.
Moi, je cite justement dans mon livre toute la période, et c'est très amusant parce qu'il y a toute une période où
ils sont fiers.
Être woke, c'était formidable. C'était la solution, c'était le nouveau rebelle. Mais il y en avait plein, le Times, il y en avait, mais même dans la presse française, dans Le Monde, dans Les Inrecuptibles, etc. Et puis, du jour au lendemain, dès qu'on a commencé à cerner le problème, il a fallu... il a fallu effacer le mot. Or, c'est un mot très important parce que ça permet d'appréhender le sujet.
Dans
sa globalité, qui est diverse, c'est vrai. Mais parce que ça regroupe le décolonialisme, le néo-féminisme, l'antiracisme, le transgenrisme, qui sont des doctrines différentes, mais qui reposent sur le même socle. Et donc, c'est juste d'avoir ce mot, je trouve.
Oui, et donc, justement, aux États-Unis, comment ils font ? Est-ce qu'ils utilisent le même langage woke pour lutter contre le wokisme ? Est-ce qu'ils utilisent le langage préexistant, l'anglais, quoi, avant les mots qu'ils ont inventés ? Ouais. Ou est-ce qu'ils essaient de construire aussi des mots ? Je sais qu'en France, on a eu un grand débat sur le mot islamo-gauchisme, par exemple.
Ouais.
Essayer de trouver des mots de débat, quoi, en disant, voilà, nous, vous avez vos mots, on a nos mots, et on va voir si on peut encore se comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Ou qu'est-ce qu'ils font surtout là-bas ?
Il y a eu un temps, au tout début, enfin dans les années 2019-2020, il y avait l'expression gauche régressive qui était apparue. Mais alors, il y a un nom qui est assez important en ce moment, qui est celui de Christopher Ruffaut, qui est une des pièces maîtresses de la contre-offensive pragmatique. Et Christopher Ruffaut, il a 39 ans, enfin, il est assez jeune, un Américain. Et lui, c'est lui qui a révélé, en fait, l'intrusion du wokisme dans l'administration, et même dans l'administration fédérale, etc. Et après, donc, il a eu l'oreille du président des États-Unis. À l'époque, c'était Trump. Aujourd'hui, il est écouté par... La plupart sont des républicains, par les gouverneurs, etc., pour les lois sur le transgenrisme, pour interdire les opérations chirurgicales sur les mineurs, etc. Et Christopher Ruffaut, quand il a commencé sa campagne, il a dit « Je veux absolument utiliser les termes qui sont utilisés par ceux qui portent ce mouvement. » Par exemple, la théorie critique de la race, qui est un jargon épouvantable. Je veux dire, je ne sais pas si un communicant aurait choisi d'utiliser ce terme. Mais lui dit que, justement, il faut reprendre les termes tels qu'ils sont lancés, et parce qu'en plus, c'est pas très séduisant. C'est pour ça qu'il dit... la plupart des Américains, la plupart des Américains sont plutôt pragmatiques, ils vont pas aimer la théorie. Critique, c'est pas très optimiste. Et racial, ils ont envie d'une société post-raciale, donc c'est pas un bon choix, quoi.
Donc utiliser les mots... utiliser leurs propres mots pour les mettre en contradiction. Peut-être les redéfinir aussi, parce que je sais qu'il y a un grand débat, par exemple, sur le racisme. Les procès en racisme n'ont rien à voir avec la vraie définition du racisme.
Mais exactement. Et il y a eu cette autre initiative dont je parle aussi dans mon livre, parce que je trouvais ça assez passionnant, qui est une encyclopédie de la terminologie woke. Ça, ça a été un travail incroyable, réalisé par un mathématicien qui s'appelle James Lindsay. Vous connaissez peut-être le nom. Et il a fait ça sur Internet. C'est un travail de grande ambition. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend...
Le nouveau Diderot, quoi.
C'est le nouveau Diderot, exactement. L'encyclopédie saison 2. Et il a pris tout le jargon woke. Par exemple, décoloniser, ne signifie pas un État colonisateur qui quitte un territoire qu'il occupait. Ça signifie débarrasser la culture occidentale de tout ce qui est coupable, c'est-à-dire blanc, mâle, eurocentré. C'est-à-dire, concrètement, dans les universités, retrancher des listes de lecture, Shakespeare, Machiavel, Nietzsche. Il prend chaque mot et il en donne la définition qui est donnée par les départements de sciences sociales aux États-Unis. Avec la source, c'est sourcé, il donne le texte d'origine. Et ensuite, il l'explique avec des mots normaux. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des mots qu'on n'avait jamais entendus avant, comme privilège blanc, silence blanc, qui sortent des départements de sciences sociales. Et qui, d'un coup, ont envahi le langage courant. Et comment ils ont envahi le langage courant? Parce qu'ils ont été repris par des revues savantes. Donc, ils ont été labellisés comme, comme juste, comme, comme un concept qui décrit la société. Et ensuite, les hommes politiques les ont utilisés, etc. Adaptés, c'est ce que vous dites. C'est vraiment...
Et donc, là, ce qu'il faut faire en France, par exemple, parce qu'on est très attaché à la langue, en plus, en France.
Exactement.
Et les mots ont vraiment un sens.
Exactement.
Je ne sais pas si le rapport est le même dans les pays anglo-saxons, mais en tout cas, en France, vraiment, les mots sont très importants. Quand on parle de privilège blanc, quand on veut lutter contre ce concept de privilège blanc, par exemple, est-ce qu'on utilise ce mot ou est-ce pour que nos détracteurs les comprennent, ou est-ce qu'il faut qu'on réinvente des mots?
Je ne sais pas s'il faut qu'il y ait une stratégie, enfin, au niveau individuel, qu'il y ait une stratégie très figée. Je pense que face au wokisme, l'ironie, c'est jamais mauvais. Ils n'aiment pas ça du tout. Donc,
oui, donc non, parce qu'on ne peut plus rire de rien.
Donc l'ironie, donc évidemment, pour être ironique, il ne faut pas s'interdire d'utiliser les mots qu'ils utilisent. Moi, je crois que surtout, il y a une chose très, très importante au niveau individuel, c'est de ne pas répéter des choses auxquelles on ne croit pas.
Ouais.
Et ça, c'est pas évident,
ouais.
Parce que la pression sociale est assez importante. Oui, je crois que c'est assez important dans la stratégie. Ouais.
Et dernière question. Vous finissez votre livre, en conclusion de votre livre, vous dites que souvent quand on se retrouve frappé par le wokisme, on se demande est-ce qu'on n'est pas fou ? Suis-je fou ? Est-ce que vous pensez qu'on est fou ?
Oui, je pense qu'on est fou. Non, mais c'est ça, parce que c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire le sentiment de solitude à cause de la pression sociale. Je parle aussi, on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais dans les stratégies de réponse, il y a évidemment les associations. Il y a eu, au moment de la vague Black Lives Matter en 2020, par exemple, en Angleterre, il y a une association qui s'appelle Don't Divide Us, ne nous divisez pas. C'est vraiment une réaction spontanée de gens de toutes minorités ethniques et qui disaient on ne veut absolument pas se regarder les uns les autres en fonction de notre couleur de peau. Et donc, il y a des associations équivalentes aux États-Unis. Sur le sujet du transgenrisme, il y a aussi des associations de parents. Et c'est pour ça que j'en viens là. C'est qu'il y a, par exemple, une association de parents qui intercontinentale, des parents d'enfants transgenres qui sont inquiets, qui échangent des informations, etc. Et il y avait un des textes de parents qui évoquait la dysphorie parentale. Parce que vous savez, la dysphorie, le transgenrisme, on parle de dysphorie de genre, où l'enfant a l'impression d'être du sexe opposé. Et la dysphorie parentale, c'était un parent qui disait que, à force d'avoir contre soi la pression sociale, votre enfant qui vous dit « mais si, je t'assure papa, je suis un garçon, je suis une fille », l'entourage qui vous regarde comme si vous ne preniez pas en compte la vraie nature de votre enfant, ouais. Et ben, vous finissez de guerre lasse par dire « d'accord ». Et par renoncer à ce qui intuitivement vous paraît évident et ce qui devrait protéger votre enfant. Et je trouve que c'est assez...
L'impression d'être fou, quoi.
Voilà.
De dire « tant pis, je suis fou ».
Ouais, ouais,
j'ai pas le choix d'être fou.
Je peux rajouter une chose ?
Bien sûr.
Vous savez, le wokisme, en fait, c'est l'enfant du politiquement correct. Le politiquement correct est apparu dans les années, fin des années 80 aux États-Unis. Et le wokisme, c'est le politiquement correct à la puissance 10, disons. Et il y a une association qui s'appelle FIRE, Foundation for Individual Rights in Education, et qui a été fondée fin des années 90. Ils étaient 14 au départ, maintenant ils sont plusieurs centaines. Ce sont des avocats bénévoles. Et vous voyez, on a besoin de ce genre de structure quand on est seul face, quand un prof est menacé de licenciement, ou même un élève de mauvaise pensée, etc. Il ne peut pas se défendre tout seul. Et donc, ce genre d'association est importante. Et ce qui est intéressant avec cette association, c'est qu'elle était concentrée sur la bonne application du premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression dans les universités. Et elle a élargi son domaine d'action à l'ensemble de la société. Donc voilà, donc attention à ceux qui veulent s'attaquer à la liberté d'expression. Il y a des gens qui sont...
Il y a encore des résistants.
Qui s'en occupent.
J'ai l'impression que c'est plus simple et que tout le monde s'attache un peu à combattre principalement les questions de transgenrisme, des questions de genre, en fait, tout simplement. Et que c'est plus compliqué sur les sujets de racisme ou de féministe, c'est peut-être plus rattaché au transgenrisme, donc encore qu'on en parle, mais j'ai l'impression que ce sujet-là, de décolonialisme, etc., est plus compliqué à attaquer, ou l'impression que les gens sont plus frileux à le défendre, parce qu'on dire qu'un homme est un homme est une femme est une femme, 2 plus 2 égale 4, les gens se disent, bon, si j'ai pas beaucoup d'arguments, au moins je sais ça, et ça, je peux être sûre de moi là-dessus, mais c'est vrai que les questions le racisme systémique, tous ces mots-là, les micro-agressions, etc., comment s'attaquer à ça, parce que c'est les ressentis des personnes, et c'est dur de se battre contre des ressentis, on se sent jamais légitime dire à quelqu'un, tu penses mal, même si tu le sens, tu penses mal, terrible. Tu sens mal peut-être potentiellement. Est-ce qu'il y a justement ces combats, il y a un combat un peu plus gagné d'avance sur les questions de genre et un combat plus compliqué sur le racisme, Black Lives Matter, on le voit encore en France, c'est quand même très compliqué d'évoquer ces sujets-là.
On joue beaucoup sur la culpabilité en fait, la culpabilité des gens, donc c'est difficile effectivement de répondre, mais le wokisme s'est fait une spécialité en plus de mener des batailles déjà gagnées, c'est-à-dire de s'insurger contre l'esclavagisme dans les seules sociétés qui l'ont aboli, de condamner le colonialisme à l'ère post-coloniale, de défendre les droits des femmes là où dans les sociétés où les droits entre les hommes et les femmes sont égaux. Enfin, c'est assez étrange. Donc c'est pour ça que quand vous dites est-ce qu'on est chez les fous? C'est un peu paradoxal quoi.
Parce qu'on a souvent tendance à se dire justement je suis quand même je prends l'exemple français parce que je suis française mais je suis quand même en France, on a un pays qui a travaillé quand même pour le droit des femmes énormément, qui a travaillé sur les questions justement du décolonialisme et tout, qui a pas fait toujours tout bien mais qui a essayé de faire au mieux, qui essaie au moins de réparer maintenant, on fait quand même vachement d'efforts et pourtant quand on a quelqu'un d'origine étrangère qui nous dit mais moi je sens que, là on peut plus rien dire, on a beau dire quand même on a fait ça, non parce que moi je sens qu'il y a du racisme donc la France est raciste. Ouais. Et bon bah ok, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que...
C'est en ça que l'écriture inclusive, il y a un moment où on peut se dire si on s'attaque à la misogynie dans les lettres, c'est qu'on a déjà fait le principal du... Je crois que c'est Finkielkraut qui disait ça. C'est que le principal a déjà été fait et que c'est déjà... Il n'y a plus de problème, quoi. Si c'est juste ça, c'est...
Donc, en fait, faut... Si on veut bien lutter contre le wokisme, il faut être... en fait fier déjà de ce qu'on fait nos aïeux et de ce qu'on fait nous à notre échelle en fait.
Exactement.
Pas avoir honte quoi, ce qu'on essaie de nous faire sentir.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des... C'est central dans le wokisme, la haine de soi. La notion d'oïkophobie, la haine de son foyer, la haine de soi, la haine de sa culture, réduire l'histoire occidentale à l'esclavagisme, au colonialisme, au racisme, c'est vraiment une vision tellement réductrice. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de passer à autre chose, parce que le wokisme, il y a quelque chose d'assez moche en fait, c'est juste regarder, juste se dire que l'humain est épouvantable, on sent qu'il y a... Il y a quand même, le climat est en train de changer quand même. Je vous donne un exemple. Le Premier ministre britannique était en conférence devant un grand palais des congrès, etc. Et puis à un moment, il a lancé une diatribe en disant on ne peut plus se laisser intimider, on ne peut plus être insulté juste parce qu'on pense qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme. Et la ferveur des applaudissements à ce moment-là, je veux dire, après une telle évidence, on se dit que là, les gens n'en peuvent plus, quoi, ça s'essouffle, qu'on peut plus y croire. Mais c'est important de déloger le wokisme des institutions, c'est ça le problème. De déloger des administrations, des universités, des institutions culturelles, des musées.
C'est ça, en fait, ce que j'allais dire, c'est que la riposte passe aussi par la préservation de ce qui préexiste, en fait.
Exactement. C'est pour ça que c'est enthousiasmant. C'est pour ça que quand vous dites à des amis, j'écris sur le wokisme, oh là là, non. Je dis, mais au contraire, c'est très enthousiasmant parce que c'est la contre-offensive et que, et que c'est... Mais ce qui est dans cette façon de rester droit de refuser de dire des choses qu'on ne croit pas, etc. Tous ceux qui sont passés de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qui ont osé, les Jordan Peterson, les Dave Rubin, et après eux, toute une ribambelle de gens, en fait, ils ont ouvert des voies. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont donné des arguments, et surtout, ils ont ouvert des voies. Et puis surtout, vous savez que le wokisme est pour la pénitence, mais contre le pardon. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes mal comporté, selon les critères du wokisme, c'est fini. On veut plus de vous. Donc les gens qui sont passés de l'autre côté, ils n'ont plus de limites dans leur action. Ils sont plus inhibés, ils sont prêts à mener le combat jusqu'au bout. Donc ils sont assez efficaces et ils sont de plus en plus nombreux.
Oui.
Tandis que ceux qui... Mais on peut comprendre, et d'ailleurs la plupart des gens qui luttent contre cette chape de plomb woke ont aussi beaucoup de compréhension pour le tout venant qui n'ose pas aller contre, parce que c'est dangereux, parce qu'on risque de perdre sa situation, etc. Mais on a besoin de gens qui dénoncent les tartufferies, quoi.
Est-ce qu'il y a des personnalités françaises qui travaillent avec des personnalités américaines et anglaises, justement, sur ces sujets-là, qui peut-être des associations qui les ont appelées en disant « Bon, comment vous faites? Qu'est-ce que nous, on peut faire ?» Est-ce que ça, c'est un effet domino sur d'autres pays aussi? Peut-être qu'il y a, ça se déclenche un peu.
Ah oui, il commence à y avoir des ponts. Le colloque qui avait été organisé à la Sorbonne en janvier, pas celui-là, mais 2022, sur la déconstruction, comment reconstruire, etc. Il y avait des intervenants anglo-saxons, et c'est l'avantage de Twitter et des réseaux sociaux, c'est que maintenant les informations circulent. Beaucoup. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'appelait l'intellectuel Dark Web, qui était un groupement assez informel entre Jordan Peterson, Dave Rubin, Douglas Murray, qui est un essayiste anglais, Sam Harris, qui est américain, etc. C'était un groupe d'intellectuels, justement, qui avait... Mais il y avait aussi Claire Lehmann, qui dirige un journal en ligne australien. Enfin, il y avait des gens un peu de... C'était une organisation transcontinentale d'intellectuels qui se retrouvaient sur trois choses. La première, c'est que le sexe est une notion biologique. La deuxième, c'est que les politiques identitaires divisent les populations. Et la troisième, c'est que si on passait pour hérétique à croire ces deux choses-là, la menace était forte. Si vous voulez. Notre culture était vraiment sous haute menace. Et c'était des gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord sur tout, mais qui étaient d'accord pour réfléchir sur les mêmes sujets, si vous voulez. Et ça circulait vraiment. Ils ont fait des conférences. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas venus en France parce qu'il y a la barrière de la langue, malgré tout. C'est tout ce qui circule dans l'anglosphère, ça circule très bien parce que en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, aux États-Unis.
C'est là où la France a son rôle à jouer, c'est de soit traduire, soit réécrire, s'inspirer de ce qui se fait.
Exactement, ou rester un petit village gaulois, mais qui prend conscience que le wokisme avance aussi très sérieusement ici.
Est-ce que vous pensez qu'on a. Que là, déjà, premièrement, que la riposte est déjà en place en France. Et deuxièmement, est-ce qu'on si elle a déjà commencé, est-ce qu'on s'y est prêt à temps?
Je crois que le décalage, c'est un peu, on retrouve un peu les mêmes laps de temps entre le sommet de la vague et le début de la contre-offensive. Enfin, moi, ce que j'ai pu observer aux États-Unis et en Angleterre, sur tout ce qui se passe à l'université, dans la culture, etc. Il y a vraiment, on voit, les mêmes phénomènes se reproduisent de façon assez identique. C'est ça qui est étrange, parce qu'on parlait de la barrière de la langue, mais par contre, tout le jargon intersectionnel est plaqué dans notre langage d'une façon étonnante. Mais par contre, oui, la contre-offensive, on le voit, il y a pas mal de livres qui sortent. Il y a le livre de Samuel Fitoussi sur le wokisme dans la culture, qui est passionnant. Et où vraiment, et c'est très important. Donc il y a un travail de documentation. Maintenant, il faut des organisations et tout le guide est dans mon livre.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est vous avez, vous avez un message d'espoir ou du moins d'espérance sur la fin de l'ère woke. Il y aura des blessures, il y aura des séquelles.
Moi, je suis assez optimiste d'abord parce que il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a eu l'arrêt de la Cour suprême aux États-Unis en juin dernier sur les quotas positifs, qui était décisif. Il y a eu ça c'est la réponse juridique, il y a eu un procès en Angleterre d'une jeune fille qui s'appelle Kera Bell, ça c'est remonté à 2020 déjà, mais où tout ça est devenu maintenant au grand jour et commence à être réglé. Et puis le wokisme, si vous voulez, se heurte au réel aussi, quand vous dites, je ne sais plus quel est
connecté
au réel. Bon, ben, le wokisme se heurte au réel. C'est assez amusant de voir, enfin, cocasse et absurde, de voir ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis sur la question des réparations, vous savez, pour compenser l'esclavage. Il y a eu un enthousiasme incroyable en disant, il faut réparer, il faut donner de l'argent aux descendants d'esclaves, etc. Bon, c'était une idée un peu farfelue, mais qui a été votée par pas mal de villes aux États-Unis. Et puis concrètement, ça a été un fiasco total, parce que d'abord, il fallait avoir vécu dans la ville un certain nombre d'années. Ils octroyaient aux personnes noires un numéro. Ensuite, déjà, c'est pas très élégant. Ensuite, il y avait une loterie. Donc il y en avait sur 12 000, je crois qu'il y en a 59 qui ont touché... des réparations. Alors, il y avait une loterie. Si vous étiez gagnant, vous aviez droit à 25 000 dollars, mais on ne vous donnait pas l'argent à vous. On le donnait à une banque qui vous le rétrocédait seulement si vous aviez un projet intéressant de rénovation de votre logement ou pour payer votre loyer, etc.
Donc, sur les 59, il y a eu trois personnes qui...
Non, il y en a eu 59 qui les ont touchés, je crois, finalement. Ah, oui. Mais enfin, tout ça a été fait avec une condescendance et un paternalisme et presque un néocolonialisme qui était complètement ridicule, quoi. Enfin, qui était... L'idée defund de police, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il fallait couper les budgets de la police, ça a terriblement pâti à la communauté noire et à la communauté noire la moins favorisée, évidemment, puisqu'il y avait moins d'arrestations, etc. Enfin, il y avait plus d'homicides et de criminalité. Enfin, toutes les idées du wokisme tombent les unes après les autres. Donc, je pense que oui, la pente est claire.
Oui. Ça commence à se voir.
Ça commence à se voir. Il y a eu récemment aussi, je ne sais pas si vous aviez entendu parler d'Ibram X. Kendi, qui est un des... C'est vraiment la chute des nouveaux prophètes. C'est un des best-sellers de l'antiracisme. Il avait écrit notamment How to be an anti-racist, qui est traduit en français, qui a eu beaucoup de succès, qu'il a décliné comment élever son enfant pour qu'il soit antiraciste, comment faire un bébé antiraciste. Enfin, c'est devenu une entreprise commerciale. Il était à la tête d'un centre de recherche antiraciste de l'Université de Boston qui lui a été confié. Il a eu un budget de 43 milliards de dollars pour diriger et faire des recherches. Et là, trois ans plus tard, il paraît qu'il y a très peu de choses qui sont sorties de ce centre de recherche, que le centre de recherche est en faillite, qu'ont été licenciés une trentaine d'employés. Enfin, tout s'écroule, quoi. Quant à l'impératif diversitaire, il semble que les relations interraciales n'aient jamais été aussi mauvaises que depuis, en gros, 2014-2015, depuis le deuxième mandat de Barack Obama. Donc c'est-à-dire que ça coïncide avec le moment où l'antiracisme, le néo-antiracisme a pris de l'ampleur. Finalement, les résultats ont été à l'inverse. C'est terrible.
Et ben
merci.
Voilà. Ben merci à vous.
Merci beaucoup.